J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire de la nudité, ou plutôt l'histoire d'une femme qui découvre son corps. Mais vous allez voir, ce n'est pas exactement ce que vous croyez. Longtemps, comme beaucoup d'entre nous, reconnaissons-le, sa nudité fut associée à la sphère de l'intime, du chez-soi, de sa salle de bain, de sa chambre à coucher, de son désir ou du désir des autres. Vous connaissez cette photo de Simone de Beauvoir nue, sensuelle et forte devant le miroir de sa salle de bain? Eh bien, c'est ainsi qu'elle vivait sa nudité, entre auto-érotisme, sentiment de puissance et adresse plus ou moins directe au regard de l'autre. Mais c'était avant que le hasard d'une promenade ne la conduise sur une plage naturiste. Naturiste, attention, et pas nudiste. Avant que ses clichés ne tombent en même temps que sa culotte. Avant qu'elle ne découvre la beauté d'une possibilité nouvelle. Être nue au milieu de la nature et des éléments, au milieu des autres animaux humains enfin débarrassés de leur vêture sociale, et se voir, oui, écoutez bien, se voir, mais en cessant de se mater. Avant qu'elle ne découvre que les vêtements font le jeu des rapports sociaux et des rapports de domination. En effet, l'homme qui veut dominer la femme veut la déshabiller. Mais si elle est déjà nue, il se retrouve désemparé. Et s'il est lui-même nu, avec son corps imparfait et toutes ces années de gainage qu'il n'a pas faites, alors il se retrouve vite un peu moins dominant. Qu'a-t-elle découvert le jour où elle s'est retrouvée sans culotte, caressée par le vent, enfin rendue à la nature et libérée de son excès de cérébralité ? Que le naturisme n'est pas le nudisme. Si le nudisme est un exhibitionnisme souvent, le naturisme est une philosophie de la vie, un projet de société écologique en même temps qu'un être au monde cosmique, pour ne pas dire métaphysique. Qu'a-t-elle découvert le jour où elle s'est retrouvée sans culotte sur une plage naturiste ? Une possibilité inédite d'être au monde, la possibilité enfin retrouvée de se fondre dans le grand tout, dans l'amitié du soleil et du vent. Une autre forme de puissance. Ce qu'elle avait aimé en lisant Spinoza et Camus, il aura fallu qu'elle le redécouvre en vivant nu pour l'éprouver enfin vraiment. Pour en parler ce matin de ce que c'est que vivre nu, se mettre à nu, se déshabiller, j'ai la joie de recevoir une jeune philosophe naturiste, Margot Cassan, dont le très joli essai personnel et érudit, Vivre nu, est sorti en avril dernier aux éditions Grasset. Margot Cassan, donc, qui nous a rejoint ce matin, habillée, je précise, dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon, pour nous aider à réfléchir à cette très belle question. Faut-il vivre nu pour enfin vivre ensemble ?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Margot Cassan.
Bonjour.
Désolé pour cette blague du monde d'avant, quand j'ai dit que vous étiez venue habillée.
Non, j'ai beaucoup ri, merci pour votre présentation.
Oui, alors vous sortez, vous avez sorti en avril cet essai, Vivre nu, chez Grasset. Alors, je précise tout de suite, c'est sur le naturisme, et c'est un livre de philosophie, c'est très érudit, c'est un livre d'histoire. C'est une promenade dans l'histoire de notre nudité, et vous montrez que le naturisme n'est pas ce qu'on croit. Vous déshabillez les clichés, et vous posez surtout d'abord la différence entre naturisme et nudisme.
Oui, je pense qu'on a beaucoup associé le naturisme et le nudisme parce qu'on associe la nudité à la sexualité et qu'on réduit la nudité à la sexualité. Et donc, j'ai voulu expliquer ce que c'était que le naturisme. Et pour ça, il fallait raconter son histoire, qui est une histoire au croisement entre les médecins hygiénistes, on y reviendra peut-être, et l'anarchisme.
Non, mais on va tout de suite l'expliquer, parce que c'est une très belle façon d'entrer dans la matière. Il y a deux courants dont vous montrez qu'en se croisant, ils créent le naturisme. D'un côté, l'hygiénisme, pour moi, c'est des sortes d'antivax avant l'heure, oui. Et de l'autre côté, l'anarchisme, et on voit l'enjeu politique, libertaire et égalitariste. Expliquez-nous ça.
Alors, ce sont deux courants qui, a priori, n'avaient pas de raison de se rencontrer, sauf d'avoir un ennemi commun, qui est le capitalisme industriel, naissant à l'époque où ces deux mouvements fleurissent, donc à la fin du 19e. Et les médecins hygiénistes sont effectivement des défenseurs d'une médecine, disons, naturelle, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les médecines alternatives. Et ils combattent dans la naissance du capitalisme industriel, l'industrie pharmaceutique avec la financiarisation des médicaments, etc. Et donc effectivement, il y a déjà des textes dans les années 10, 20, 30, anti-vax du docteur Carton, par exemple, qui est un naturiste hygiéniste. Et puis les anarchistes féministes, mais pas que, qui combattent, eux, le capitalisme industriel pour l'aliénation de la condition ouvrière ou aussi pour l'industrie agroalimentaire, puisque ça va être les premiers végétariens aussi.
C'est ce qu'on découvre dans votre livre, hein, que le naturisme peut être un projet de société écologique, véritablement subversif en fait.
Oui, écologique, il l'est à la racine, parce que derrière le naturisme, s'il devait y avoir une seule, un seul mot d'ordre, c'est la notion de sobriété.
Ouais,
donc sobriété déjà dans le vêtement. C'est pas seulement d'être nu, c'est aussi quand vous portez un vêtement, de porter un vêtement sans froufrou, sans fioriture, ouais, sans marque de luxe. Et puis un certain mode de consommation, ou plutôt de non-consommation, de viande, de tabac, d'alcool.
Ouais, c'est tout un mode de vie en fait. Alors je précise que vous êtes intellectuel, philosophe, mais vous avez aussi une histoire personnelle que vous racontez, et une histoire où vous avez été élevé dans ce monde-là, dans ce milieu-là, avec votre famille, votre oncle, votre tante, vos grands-parents. Votre oncle d'ailleurs qui vous disait « Lorsque le bourgeois est nu, on ne le distingue pas de l'ouvrier ». Est-ce que c'est si vrai ?
C'est pas si vrai, mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est le discours, et il y a vraiment, c'est ce que j'ai voulu expliquer derrière la nudité, c'est pas une nudité gratuite, c'est pas oui, qu'une nudité de confort. Il y a cette idée que je trouve très belle, une idée mutualiste, que pour vivre en communauté, il faut se débarrasser du vêtement en tant qu'il vous distingue et aussi qu'il vous isole. Et que souvent, justement, le grand industriel va pas pouvoir parler avec l'ouvrier parce que ne serait-ce que dans la façon dont ils sont habillés, ouais, ils considèrent qu'ils n'ont pas de raison de rentrer en contact.
C'est ça.
Ensuite, c'est vrai qu'un corps ouvrier, il est marqué.
Bien sûr.
Et que donc forcément, il y a une différence. Mais c'est ce qu'on vise, c'est un horizon. C'est,
ouais,
une,
d'ailleurs, vous racontez qu'à un moment, ça ne se voit pas tout le temps quand même, parce que vous découvrez, après quelques jours de naturisme, que cette personne avec qui vous avez sympathisé est un grand patron de chez LVMH, je crois, et
oui,
ça ne se voyait pas parce qu'il était tout nu.
Oui, ça ne se voyait pas, et surtout, il ne le revendiquait pas. Il y a aussi un truc très surprenant aujourd'hui. On parle beaucoup de la question du travail, des retraites, ouais, dans les villages naturistes, mais ça, c'est peut-être aussi le propre des vacances. Les gens se définissent très peu par leur travail, donc vous pouvez passer un mois avec quelqu'un.
Ouais, c'est pas, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Non,
quand on est à poil, on dit pas ça.
Cette question vient très tard, voire elle ne vient jamais.
Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que la nudité nous libère comme ça du social ? C'est un peu votre thèse, en fait.
Oui, enfin, en tout cas, des armures sociales, des freins sociaux qu'il peut y avoir entre des gens qui, dans la ville, comme à Paris par exemple, n'ont pas vocation à se rencontrer, ça saute. Il y a plusieurs frontières qui sautent. Il y a des frontières de genre, des frontières de classe, des frontières générationnelles qui sautent avec la nudité. Parce que la nudité, c'est un peu comme les militaires. Vous la portez comme un second vêtement, oui, comme une forme d'uniforme qui fait lisseur social.
Ben je vais lire un de vos passages pour qu'on comprenne bien votre ton, et aussi que c'est très bien écrit, c'est assez littéraire. Donc je lis un extrait de votre livre « Vivre nu », sorti chez Grasset, Margot Casson. « J'aimerais raconter comment la nudité camoufle, comment l'absence de vêtements chagrine l'érotisme, comment les rapports de domination qui déterminent souvent la relation entre les hommes et les femmes s'évaporent comme par magie quand tous circulent nus. Beaucoup de choses ont été dites sur la domination masculine. En retirant mes vêtements, j'ai découvert que l'homme dans son état de nature n'était un danger pour personne. Pour ainsi dire, je ne me suis jamais senti vulnérable face au sexe mou d'un étranger, y compris ce jour-là, quand cet homme a pris mon sein dans sa bouche, presque innocemment, sur le chemin qui le ramenait à sa chambre d'hôtel. J'ai pensé au sein manquant de ma grand-mère, que c'était une forme de dédommagement. Je n'ai pas pensé à l'agression. Précisément pour cette raison que les hommes nus, pas ceux que l'on voit habituellement sur les publicités ou au musée, ceux qui ont la peau rougie par le soleil, des seins qui pendent, un sexe caché sous un gros ventre ou des plis sur un corps frêle, quelques poils aléatoirement dispersés sur le torse, sont aussi démunis que moi. Précisément encore, ils, donc ces hommes, sont une femme comme moi.
Oui.
Expliquez-nous un petit peu, parce que est-ce que ça donne envie ? Où est votre militantisme au fond ?
Je suis ni prosélyte ni réellement militante. C'est plus un constat,
ouais,
rassurant, qui est de voir que les hommes dans les villages naturistes, et ça bien avant MeToo, ça fait,
ouais,
120 ans qu'ils sont dans cette situation, sont dans une situation de vulnérabilité, comme les femmes le sont dans l'espace public. Parce que justement, ils n'ont pas de vêtements pour faire autorité. Le costume, ça sert à ça.
Ouais.
Ça sert pas à vous protéger du froid ou au contraire de la chaleur. Ça sert à faire autorité. Et quand vous vous libérez du costume, vous perdez une posture de domination et vous vous retrouvez dans une situation de vulnérabilité qui est souvent celle des femmes dans l'espace public.
D'accord.
Je trouvais intéressant de le constater. Ça crée des rapports beaucoup plus spontanés entre les genres. Bon, qui, moi, me fait du bien, si ça, c'est militant. Alors
non, bien sûr. Alors, on apprend beaucoup de choses, c'est une plongée historique et philosophique passionnante. On apprend notamment que nous, les non-naturistes, vous nous appelez les textiles.
Oui.
Alors moi, je suis un textile, ça m'a fait bizarre. Et on apprend aussi que finalement, on peut, en quelque sorte, se débarrasser de la sexualisation à outrance de notre monde et vivre une nudité désérotisée. Mais n'y a-t-il pas, d'abord, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Est-ce que vous le constatez vraiment? Est-ce que cette la façon dont cette libido s'envolerait, c'est pas un peu une hypocrisie que de le voir comme ça? Et deuxième question, si c'était vrai, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque qu'après on n'arrive pas à ré-érotiser la nudité? Ça fait deux questions.
Oui, et même trois avec les textiles. Je voulais juste préciser pourquoi j'ai insisté sur le fait que les naturistes appelaient les autres les textiles. Ouais. Parce que souvent, quand vous faites partie de la norme, vous n'avez pas de nom. C'est pareil, quand vous êtes à Paris et que vous avez un accent, vous n'avez jamais l'impression d'avoir un accent parce que vous êtes dans la norme. Donc le fait de donner un nom, ça permet un peu de faire de la marge en centre. Et je trouvais ça intéressant. Ouais, ensuite, sur la question de la sexualité... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de sexualité dans les villages naturistes. C'est absurde de dire ça et c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la nudité qui crée l'érotisme.
D'accord.
Et même, je vais plus loin que ça, en disant qu'au contraire, le fait que tout le monde soit nu, ça décharge les corps de leur caractère potentiellement érotique. Pourquoi ? D'accord. Parce que pour moi, le désir, il vient beaucoup de la question du tabou, il vient beaucoup de la notion de transgression, et que quand vous voulez représenter le désir dans le cinéma, par exemple, Eustache le montre très bien, vous montrez un homme derrière une serrure de porte qui regarde une femme se déshabiller, et ce qui est excitant pour lui, c'est le fait que cette femme ne sait pas qu'elle est regardée.
Vous voyez, c'est comme aussi dans le verrou de Fragonard.
Exactement, voilà.
Parce qu'on ne voit pas vraiment, parce que c'est suggéré, parce que c'est à moitié caché. Mais tout ça, on aime ce monde-là, non ?
Oui, mais l'un n'est pas exclusif de l'autre, mais ce qui est dommage, et surtout dans la société aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on aime ce monde-là, mais quand il n'est pas tout le monde.
C'est-à-dire quand il ne dévore pas le rapport au corps et à la nature aussi.
Voilà, et puis le temps, c'est-à-dire dans le naturisme, il y a un temps pour la sexualité. C'est le temps du soir, par exemple, où les gens s'habillent, et là, il y a une place pour le flirt. Mais quand la sexualité dévore
c'est intéressant.
Le temps
c'est
du
jour... C'est quand on s'habille qu'on redevient objet de séduction, de mystère et de désir.
Oui, oui.
Et les cuisses. Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu trouves
jolies mes fesses? Oui. Très. Margot Casson, ça vous inspire quoi de réentendre le mépris?
C'est intéressant cette scène parce que c'est exactement comme ça que fonctionne le désir féminin souvent et presque malheureusement. C'est-à-dire il n'existe que dans la validation du regard de l'autre. T'en penses quoi de mes fesses?
Bien sûr, oui.
Donc c'est le regard de l'autre qui vous valide en tant qu'être potentiellement sexué.
Mais c'est ça, être un être de relation aussi.
Oui, mais si la relation est justement captivée par des rapports potentiellement sexualisés, ça tue aussi la relation.
Oui, je suis d'accord. Alors vous êtes naturiste, vous racontez de façon assez désopilante dans ce très beau livre, qui est un récit, un essai en même temps, que vous avez été, vous êtes allé voir un peu dans un club échangiste pour voir la différence entre le naturisme et l'échangisme. Alors c'est des pages très drôles, ça vous parle pas du tout, vous ennuyez au milieu de ces corps qui s'agitent. Et par ailleurs, l'été, vous êtes naturiste, et l'hiver, vous posez nu sous l'œil d'un peintre. Est-ce que c'est la même expérience de la nudité ?
Non, pas du tout. Justement, j'ai voulu voir ce que c'était, ce que ça faisait comme différence d'être nu parmi des gens qui ne le sont pas et qui vous regardent, justement.
Parce qu'il
y a toute cette idée derrière le naturisme qu'il a aussi un discours, mais qu'il n'y a pas non plus un très grand décalage entre le discours et la réalité, que les gens ne se regardent pas ou essayent de ne pas se mater au sens, essayent de ne pas se regarder avec insistance. Au contraire, quand vous posez nu, déjà les autres sont habillés. Et puis, ils sont tout autour de vous, vous êtes sur un hôtel, vous êtes mise en scène et les gens vous regardent. Et j'ai voulu faire cette expérience pour éprouver la différence et aussi pour qualifier le naturisme.
C'est ça.
Parce que là, il y a une recherche dans le texte de définir le naturisme à partir de ce qu'il n'est pas. Donc justement, l'expérience de modèle vivant permet de faire une première différence.
Notamment, oui.
Il n'est les pas nudistes, nudiste. Les échangistes, le libertinage, tout ça auquel c'est associé permet de faire une... Et puis en fait, la définition du naturisme se construit dans ces distinctions.
francs en 6 mois. Y a des couleurs que j'ai confondues. Je crois que j'ai perdu le mode d'emploi. On joue dans un film sans réalisateur. Si je réfléchis, on tombe dans l'ascenseur. Si je peux, je fais tout avec toi, tout avec toi. À contre-sens, je roule avec toi. Dans le film, je joue avec toi, tourne avec toi. Et tu dis que c'est flou avec moi.
C'était Johan, Papa Constantino, mode d'emploi.
Sous le soleil de Platon.
Oh ! C'est un scandale !
Elle est cul-due, elle est cul-due !
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Margot Cassan, philosophe, il faut que j'arrête de dire jeune, philosophe, naturiste, spécialiste par ailleurs de Paul Ricoeur, et vous publiez un essai passionnant sur Vivre nu, sur le naturisme qui est à la fois philosophique, historique et aussi un récit littéraire. Vous avez fait quelque chose de très philosophique, c'est de montrer ce que le naturisme n'est pas. Il n'est pas un exhibitionnisme, il n'est pas le nudisme, il n'est pas l'échangisme. Maintenant, je voudrais qu'on aille plus loin, et c'est ça aussi la démarche philosophique, que vous nous disiez ce que le naturisme est vraiment. Bref, quelle est l'essence du naturisme ?
Pour moi, il y a trois éléments qui sont non négociables dans le naturisme. Il y a vivre nu, première chose. Deuxième chose, dans un environnement naturel. Et troisième chose, en communauté. Ce serait la définition à trois tiroirs du naturisme pour moi.
Ah oui, ça veut quand même dire qu'on pourrait retrouver la nature davantage parce qu'on est nu. Expliquez-nous ça, même peut-être à travers votre sentiment, votre expérience. Cette expérience comme ça, presque cosmique. Moi, en lisant votre essai, je me suis dit, mais en fait, le naturisme, c'est métaphysique, c'est cosmique. On est au monde, enfin. Mais pourquoi le fait de se déshabiller nous permet d'habiter le monde de manière inédite ?
Parce que, justement, vous parliez du discours écologique tout à l'heure, et ce qui est intéressant et en même temps malheureux dans le discours écologique, c'est qu'on se qualifie, nous, en tant qu'hommes, comme chargés d'une mission de protection de la nature qu'on a nous-mêmes flinguée, mais comme si la planète était une forme d'altérité. Et dans le naturisme, quand vous retirez le vêtement en tant que qu'armure justement qui vous sépare avec les éléments, ouais. Vous vous rendez compte que la planète, c'est vous. Et comme l'homme est un égoïste par nature, en fait, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus utile de lui faire se rendre compte que la nature, c'est lui, pour qu'il se protège lui-même en la protégeant elle.
Bien sûr. Je vais lire la fin de votre essai, Vivre nu, paru chez Grasset, pour qu'on comprenne encore une fois que c'est aussi un texte littéraire et qu'il y a une proposition existentielle et globale. Je me demande ce que deviendront les forêts de sureaux qui affluent entre les bastidons, ce que deviendra la petite ferme, le terrain de pétanque, la nature et ses originaux, ce que prêcheront les nouveaux précurseurs, ces hommes et ces femmes qui, comme Anselme et Jeannette, m'ont enseigné la confiance et le courage, celui de montrer son corps dans un monde allergique aux peaux froissées, celui encore de faire ses courses sans culotte. Et pourquoi pas, sans culotte, c'est le nom que l'on donna en 1789 à ceux, travailleurs manuels, ouvriers, boutiquiers et artisans, qui se sont insurgés. Aujourd'hui, il en est d'autres des sans culottes qui, face à une menace certes mineure, ridicule peut-être, quoique, disent merde au monde et rôtissent au soleil.
Oui.
Donc vous êtes une sans culotte, vous définissez comme une sans culotte.
Oui, enfin, je me définis pas moi, mais le naturisme en général, je trouve que c'est un peu dommage. Il a été ringardisé, associé à un mouvement.
Honnêtement,
un peu badin.
C'est pour ça que je vous ai invité. Ce livre est un. C'est pour ça que je parlais de militantisme à ma façon. C'est un livre jaune parfait pour la plage cet été et pour déringardiser le naturisme.
Ben oui, mais pourquoi ? Parce que quand vous regardez l'histoire du naturisme, vous vous rendez compte que justement le naturisme, c'est pas un divertissement. Le naturisme, c'est une contre-culture, que dans l'histoire du naturiste, il y a les plus grands révolutionnaires, c'est-à-dire il y a les premiers anarchistes, les premiers médecins alternatifs, les premiers végétariens, les premiers écolos, les premières féministes, vous voyez ? Tout ça, ça fonde l'histoire du naturisme. Et c'est dommage de réduire le naturisme à son aspect loisir, confort, camping.
Vous dites, sur la plage, nu, dans les éléments et la nature, on arrête de se mater, on se voit, on se regarde, en nous faisant entendre, je crois, que dans se mater, il y a quelque chose comme une violence, en fait.
Oui, dans l'étymologie de mater, ça veut dire soumettre. Donc quand vous regardez quelqu'un en le matant, vous le soumettez à ce que vous projetez chez lui, souvent comme désir, comme jugement, comme a priori. Et aussi, derrière la définition de la nudité, il y a aussi ça. Quand vous lisez Georges Bataille sur la nudité, ouais. Il vous dit, c'est pas seulement retirer ses vêtements. Être nu, c'est se décharger de ce qu'on croit savoir et de la morale qu'on croit défendre.
Ouais,
et c'est là qu'on est
nu. Se déshabiller, se débarrasser. On pourrait presque dire aussi, presque s'alléger en un sens bouddhiste.
Oui, c'est pour ça que la notion de sobriété me parle beaucoup et ça a un rapport avec ça.
Maintenant, je vais me faire un peu l'avocat du diable et pour ça, je voudrais qu'on écoute Camille Laurence, une écrivain que j'adore et je suis pas le seul, mais qui nous laisse entendre que peut-être, dans la nudité, il peut aussi y avoir quelque chose en fait de pas très sain, voire de névrotique.
Elle se définit elle-même comme borderline et pour moi, une des définitions des personnalités borderline, c'est que précisément, il n'y a pas de carapace, il n'y a pas d'écorce en quelque sorte ou de peau en fait entre soi et le monde et donc tous les chocs, toutes les émotions sont reçues, ils sont renvoyés de manière très violente. Et je me disais que peut-être sa nudité, c'était une façon de montrer qu'elle était nue de toutes les façons possibles.
Donc c'est Camille Laurence qui parle de Marilyn Monroe. Et alors on comprend le bon côté, c'est montrer qu'on est nu de toutes les façons possibles. Mais le mauvais côté, c'est que finalement, il y a encore plus de violence parce qu'on est moins protégé. Et quelque part, ça dit quelque chose comme une instabilité psychique dans son cas, en tout cas.
Oui, elle a l'air d'associer la nudité à une forme de vulnérabilité. Et comme si, quand on était nu, on avait la peau trop fine pour supporter. Et que le vêtement, justement, tient lieu de... Elle parle d'écorce.
Mais
moi,
savez...
je suis pas du tout d'accord dans la mesure où je pense pas du tout que la nudité soit le vecteur le plus évident du dévoilement. Je pense que, par exemple, le discours l'est beaucoup plus qu'un discours sur soi. C'est souvent très impudique. C'est beaucoup plus dur de parler de soi sans se dévoiler. Quand vous êtes nu, vous restez très mystérieux puisque, en fait, ce qui vous définit, c'est beaucoup. Vous décidez de porter tel ou tel vêtement, ça dit beaucoup de vous. Quand vous êtes nu, vous êtes un humain parmi les autres et quand on vous regarde, on ne lit pas à travers vous comme un livre ouvert. Donc, au contraire, je pense que la nudité, ça protège de ce qu'elle décrit.
Mais dans ce cas, la nudité est un vêtement comme un autre, finalement.
Est un vêtement...
Oui.
Pas comme un autre.
Enfin, est un vêtement.
Est un vêtement, ouais, je pense.
Quelque part, nous protège, au fond.
Ben, en tant qu'il nous rend anonymes. C'est-à-dire, justement, moi, je pense qu'il n'y a aucun dévoilement derrière la nudité. Je pense que la nudité est un mystère, que la nudité vous renvoie au groupe, que dans une société où on valorise beaucoup l'individualisation, justement, le fait d'être nu, en fait, ça vous ramène à quelque chose de l'ordre de la foule, de la masse, de l'humain. Et que donc, c'est très difficile de savoir qui vous êtes quand on vous voit comme ça, dans votre simple appareil.
Ouais, c'est beau ce que vous dites, parce que c'est vrai que les Français, par exemple, ont beaucoup peur de prendre la parole en public. Dans certaines enquêtes, dans certains sondages, ils ont plus peur de prendre la parole en public que de la mort.
Ouais.
Tellement il y a une mise à nu et une mise à mort symbolique dans le fait de parler devant les autres. Ouais. Alors, peut-être que si on leur demandait ce qu'ils préfèrent entre parler d'eux-mêmes en public ou se déshabiller. Ils préféreraient, comme vous le suggérez, se déshabiller.
Bah c'est la, toute la différence quand on dit être nu ou se sentir nu. Je sais que j'ai un ami naturiste qui est chanteur et qui m'a dit, mais en fait, je me suis jamais sentie plus à poil que quand j'ai sorti mon premier album, parce que ça, en fait, ça révèle beaucoup plus de choses sur lui, justement. Donc quand il se retrouve sur scène, ben, il a beau être habillé, ce qu'il chante, vous voyez, ça le dévoile beaucoup plus.
Mais vous, Margot Cassan, qui êtes naturiste l'été et l'automne, le printemps, et qui posez nu l'hiver devant l'œil d'un peintre, est-ce que vous vous sentez enfin nu maintenant que vous sortez ce livre?
J'espère pas, non.
J'espère donc vous restez,
pas. J'espère pas parce que je vois pas ce livre comme un journal intime du tout. Je le vois justement comme un récit politique.
Ouais, et érudit, très érudit.
Parce que on oublie un peu la valeur que peut être l'égalité. Et or, l'égalité est omniprésente dans le naturisme, beaucoup plus que la notion de liberté. L'égalité des genres, l'égalité des classes, le mutualisme, la solidarité, la vie en communauté, même la notion de bien commun, c'est devenu un peu ringard. Et mon intention, elle est plutôt là que dans le fait de raconter
ma vie. Oui, je comprends. Et on n'aura pas le temps de développer, mais je pense à Jacques Derrida, qui a raconté qu'il s'était senti mal parce qu'il avait été nu devant son chat. Il avait eu honte, au fond, d'être nu devant son chat, et même, précise-t-il, honte d'avoir honte. Comment vous interprétez cela ?
Ce qui est intéressant déjà, c'est que le titre du livre dont c'est extrait, ça s'appelle « L'animal que donc je suis ».
Ouais.
Donc c'est exactement ça, c'est l'expérience du devenir animal, de la proximité qu'il peut y avoir. Et pourtant, il est tout nu dans son appartement, il est nu mais il ne se sent pas nu. Et d'un coup, il croise le regard de son chat et le chat joue le rôle d'une espèce d'altérité globale. Et il se demande, mais est-ce qu'il me juge ? Est-ce qu'il me snob ? Est-ce qu'il me trouve tel ou tel apparence physique.
Mais pour moi, ce questionnement, ce doute, cette légère angoisse, c'est proprement humain. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous nous retirez avec cette proposition naturiste. Cette honte, je la trouve quand même intéressante.
Oui, elle est intéressante, mais il faut d'ailleurs, le naturisme ne l'annule pas, mais elle nous invite à nous y confronter, justement.
Oui, mais pour la dépasser et finalement se retrouver dans la nature apaisée, sans plus ressentir cette honte d'être nu devant le regard des autres.
Ben, justement, dans un processus philosophique un peu didactique, que la honte, ça peut être la première ou la deuxième étape. Si c'est pas la dernière, c'est bien.
Merci beaucoup, Margot Cassan, pour cette proposition dialectique finale. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie et du naturisme qui a été la vôtre ce matin. Très originale, très sensible, très incarnée, à la fois anarchiste, hygiéniste, mais pas trop, heureusement. Pas phénoménologique, comme on aurait pu le penser. La phénoménologie, c'est une pratique du dévoilement où ce qui compte, c'est le cheminement par lequel on se dévoile. Vous montrez qu'il n'y a pas ça dans le naturisme. Il y a plutôt un être ensemble, un égalitarisme, le fait de se retrouver finalement dans la nature avec les autres animaux humains libérés des rapports sociaux et des rapports de domination. C'est un vrai plaisir de lire votre livre et de vous recevoir. Merci beaucoup, Margot Cassan.
Merci
pour
à
ce
vous.
Très bel essai, Vivre nu. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, à la technique Louis Audebert, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été préparée et très bien préparée par Estelle Gap et Marie Mougin. Quant à moi, je vous retrouve le cœur en joie demain matin à 9h30 précisément sous le soleil de Platon.